Badania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue en Norvège, bienvenue à Oslo. La Norvège est le pays de tous les superlatifs. C'est le pays où l'on est le plus heureux au monde. Grâce au pétrole qui coule à flot, les Norvégiens sont très riches, ce qui ne les empêche pas d'être très prudents. Les recettes du pétrole alimentent un fonds souverain pour les générations futures. Et devinez, ben oui, il est le plus gros au monde. Il frôle les 1000 milliards de dollars alors que le pays compte seulement 5 millions d'habitants. La Norvège est l'un des berceaux de la social-démocratie et de l'État-providence, et bien sûr, l'égalité homme-femme y est légendaire. Seule petite ombre à ce tableau idyllique, l'équipe de France féminine de foot a battu l'équipe de Norvège. Alors, radiographie d'un pays si parfait et d'un peuple si heureux, Carrefour de l'Europe a posé ses micros à l'Institut français d'Oslo, et je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Tove Kramdal. Hey!
Hi, hi!
C'est comme ça qu'on dit bonjour.
Exactement, c'est comme
hey,
ça.
Hey, c'est hi. Très...
Très informel.
Très informel. Mmh. Vous êtes journaliste au Morgenbladet, je ne sais pas si je le prononce bien, qui
c'est
veut dire
bien,
le
bien.
Journal du matin, mmh. et qui paradoxalement paraît une fois par semaine.
Oui, c'est ça.
C'est un peu les difficultés norvégiennes de la presse qu'on a à peu près partout dans le monde.
Oui, c'est ça. Mais c'était un quotidien il y a 200 ans, quand le journal a été fondé, il y a 200 ans, exactement.
Et c'est devenu un hebdomadaire il y a quelques années.
Ouais.
Asbjørn Hoverås. Bonjour, j'espère ne pas avoir
Bonjour.
Trop écorché votre nom.
Non, ça va.
C'est encourageant. Merci. Vous êtes responsable du département littérature aux éditions, mais je préfère que vous le disiez vous-même.
Oscar Haug.
Et que moi j'aurais dit H. Haug ou quelque chose comme ça. voilà.
Ça va très bien.
Et encore, j'aurais eu du mal à lire. Franck Orban, bonjour.
Bonjour.
Là, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Oxford, à peu près, je le dis bien.
Voilà, c'est ça.
Ida Holung, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes assistante en coopération éducative. Et Kaya Haug.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes étudiante en littérature française. Alors, il y a quelques dizaines d'années, la Norvège était un pays relativement pauvre en Europe, avec une agriculture peu généreuse et par contre une pêche assez abondante. Déjà, les Norvégiens vivaient frugalement dans l'humilité inhérente à la religion protestante qui domine ici. Et puis au début des années 60-70, le pétrole est apparu et soudain les Norvégiens sont devenus très riches. Pour avoir un point de repère, la Norvège est le premier producteur de pétrole en Europe. Alors, c'était comment avant le pétrole, Tove Gravde? Comment vos grands-parents vivaient par rapport à vous?
Oh, c'est pas simplement mes grands-parents, c'était pendant mon enfance. Pendant les années 70, grâce à la pétrole, comme vous l'avez dit, beaucoup, beaucoup a changé. Maintenant, on est le royaume pétrolier, devenu très, très riche.
On dit même une pétromonarchie, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est
ça. À comparer aux pétromonarchies du Golfe, en fait, il y a quand même une grande différence. Alors, Osborne Overus, est-ce que le pétrole a changé les Norvégiens? Je l'ai dit, ils étaient un peu frugaux, et ça a changé?
Oui, moi je crois que ça a changé les Norvégiens aussi, mais je pense aussi que la période a changé aussi dans beaucoup d'autres pays, c'est pas seulement le pétrole. Moi j'ai l'impression que quand on parle à d'autres Européens, on parle des années 80 comme une période où les choses ont changé, où les choses devenaient plus égoïstes, où les gens parlaient plus de leurs propres affaires, voulaient gagner leur argent, on montrait plus sa richesse en Norvège. Et ça c'est pas parce qu'on est tous devenus plus riches, mais les plus riches ont tout d'un coup eu ce droit de montrer leur richesse d'une autre façon qu'avant. On est un pays protestant et avant on avait cette tendance à ne pas vouloir montrer qu'on était riche de la même façon. C'est une impression.
Vous avez un regard un peu extérieur puisque vous êtes un Français très impliqué dans la vie de Norvège. Ça a changé, les Norvégiens ont changé avec l'arrivée du pétrole et donc de la richesse.
Ça a changé beaucoup de choses dans le sens où il faut replacer ça dans un contexte européen. 73-74, première crise pétrolière, ça correspond à la date de la première production de pétrole en Norvège. Donc la Norvège a sauté par-dessus la première crise pétrolière en 73-74, par-dessus la deuxième crise pétrolière en 79 avec donc l'histoire iranienne. Et si on regarde sur le long terme, il y a eu un découplage entre le continent, si vous voulez, et la Norvège, qui est devenue une pétromonarchie. Parce que tous les chocs économiques qu'on a connus sur le continent européen, ils ont été évités en Norvège. C'est-à-dire ou en empruntant de l'argent avant la production, ou en en engrangeant l'argent de la production, ça a permis de, si vous voulez, d'éviter les chocs économiques qu'on a eus sur le continent européen.
Ida, vous n'avez connu que cette période de grande prospérité norvégienne.
Oui, j'ai eu de la chance, moi.
Vous êtes né dans le bon pays au bon moment.
Oui, c'est ça.
Ce qui veut dire que c'est vos parents qui vous racontent « Ah, mais de mon temps, c'était pas comme ça ».
Oui, oui, et mes grands-parents, c'était une autre histoire et tout. Il y a ma grand-mère qui me racontait des histoires pendant la guerre et tout. Et ils étaient sept frères et sœurs dans une petite maison. Et un peu la même chose pour ma mère. C'est pas la même chose aujourd'hui.
Kaya Ung, que vous racontent vos parents? De mon temps, c'était comment, vous disent vos parents?
Que la Norvège a beaucoup changé à cause du pétrole. Parce que on n'était pas pauvre avant le pétrole, maintenant on est très très riche. Et pour moi, qui a grandi ici en Norvège, pour moi, le futur, c'est toujours de la richesse. On a toutes les possibilités, on a tout en fait.
Est-ce qu'elle a changé en bien cette Norvège?
Oui, non, mais justement, c'est ça qui est intéressant dans un sens, parce que comme Kaya dit, nous ne sentions pas, en tout cas pour moi, j'étais jeune dans les années 60-70, et je ne me sentais pas pauvre, on n'avait pas cette sensation, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Il y a eu d'énormes changements, ça nous a donné énormément de possibilités et aujourd'hui on voyage plus que tous les autres. Moi je trouve que ça n'a pas nécessairement seulement changé d'une façon positive.
Franck Orban, on parle souvent dans les pays pétroliers de la malédiction du pétrole, parce que le pétrole enrichit une petite partie de la population, c'est particulièrement vrai dans les pays africains. C'est pas du tout le cas en Norvège, grâce à ce fameux fonds souverain, qui est une très grande originalité norvégienne, et qui explique bien tout de même un trait de caractère des Norvégiens. On est prudent, on pense à l'avenir.
Oui, mais je rajouterais une chose importante aussi, c'est qu'il a fallu des hommes politiques visionnaires pour créer une politique pétrolière. Et ce qui est très intéressant dans le contexte norvégien, c'est que justement dans les années 60-70, il y avait des leaders politiques norvégiens qui ont su faire une stratégie pétrolière qui profite au pays en entier. Quand on a découvert du pétrole, c'était en 68-69. Très facile de déléguer ça aux compagnies étrangères, françaises, anglaises, américaines, etc. Mais au lieu de faire ça, les Norvégiens ont fait des partnerships, si vous voulez, avec des compagnies étrangères, mais ont fait en sorte que l'argent, les taxes et la compétence en matière pétrolière se bâtissent en Norvège. Mmh. Ce qui fait qu'en un laps de temps extrêmement court, contrairement à ce qu'on a vu dans d'autres pays d'Amérique du Sud ou en Afrique, il y a eu une compétence nationale qui a permis de développer une stratégie nationale qui fait qu'aujourd'hui la Norvège, non seulement elle produit du pétrole, mais elle va produire du pétrole aussi dans le monde entier en offshore. Donc il y a une stratégie, le fonds pétrolier c'est une chose, mais avant le fonds pétrolier, il y a une vision politique et il y a une vision de l'intérêt national norvégien.
Alors, les Norvégiens sont le peuple le plus heureux du monde, c'est un rapport des Nations Unies qui le dit. Alors, de temps en temps, les Norvégiens sont en concurrence avec les Finlandais, qui sont en ce moment deuxièmes, ils ont été premiers, voilà. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur, mais est-ce que tout de même, l'argent du pétrole a rendu les Norvégiens plus heureux, Ida?
Oui, comme elle a dit, on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on a de l'argent. Si on choisit les mauvaises études, par exemple, on peut choisir les autres. On peut passer des années à étudier. Donc, c'est-à-dire, on a la possibilité. Je pense que c'est ça qui nous rend heureux.
Alors, personne n'a su m'expliquer pourquoi les Pakistanais ont été les premiers à découvrir la Norvège. Je ne sais pas.
On a été les chercher, non? On avait besoin de main d'œuvre et on a trouvé. Et je ne sais pas très bien expliquer pourquoi, mais les Pakistanais ne sont pas venus. Comme ça, tout ça.
L'arrivée des Pakistanais reste un mystère norvégien qu'on n'éclairera pas ce soir. Alors, en tout cas, cette étude des Nations Unies explique aussi que les immigrés en Norvège s'estiment aussi très heureux de vivre dans ce pays. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'intégration. On ne va pas faire une émission là-dessus. Tout n'est pas rose en Norvège. Mais tout de même, les immigrés se sentent globalement plutôt heureux en Norvège.
C'est intéressant parce qu'on a eu de la chance. Parce que, comme Franck l'a évoqué, on n'a pas eu cette crise économique dans les années 80, et c'est-à-dire qu'on a plus facilement réussi d'intégrer les immigrés dans l'économie norvégienne. Ça, c'est la clé pour réussir l'intégration, n'est-ce pas? C'est pouvoir employer les gens, tout le monde. Et comme ici, le taux de chômage a été très bas depuis très longtemps. Et c'est plus facile de trouver un travail ici.
Et d'intégrer, évidemment, les immigrés. Ouais. Peut-être une des raisons pour lesquelles on se sent bien et heureux aussi en Norvège, je m'adresse à Frank Orban, c'est que la Norvège est aussi un berceau de la social-démocratie et de l'État-providence. Lorsqu'on va à l'hôpital, lorsqu'on veut faire des études, on ne présente pas sa carte de paiement, on présente peut-être l'équivalent d'une carte vitale qui est un système français, mais ça contribue évidemment à rassurer le peuple et donc à être un peu plus heureux, Frank Orban.
Et oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des choix politiques qui ont été faits. Culturellement parlant, la Norvège a développé une social-démocratie dans les années 20-30 qui s'est maintenue. Du fait du pétrole, si vous voulez, comme Tove disait, on a pu absorber les chocs économiques, mais j'ajouterai en plus qu'il y a des éléments dans la tradition norvégienne, je pense par exemple à l'égalitarisme homme-femme. C'est-à-dire qu'il y a quand même le fait, vous parlez des pays les plus heureux, ce sont souvent aussi les pays où les droits des femmes aussi sont les plus respectés, où il y a une parité entre hommes et femmes aussi. Ça joue un rôle important. Et donc, le fait qu'il y ait eu une culture social-démocrate qui est ancienne en Norvège, fait que, contrairement à d'autres pays comme le Danemark ou la Suède, où quand même, malgré tout, on a senti les effets de la crise, surtout en Suède, et où la pensée libérale a plus pénétré ces pays-là qu'en Norvège, on a pu conserver un modèle social-démocrate en Norvège qui coûte quand même très cher à l'économie norvégienne. Mais c'est un choix politique qui a été fait, un choix qui garantit une certaine stabilité politique et sociale.
Ida Olun, on paye beaucoup d'impôts en Norvège ?
Non, mais assez.
Et est-ce qu'on est content de payer des impôts?
Oui.
Kaya, c'est pas encore votre cas, vous ne payez pas encore des impôts en tant qu'étudiant?
Oui, je paye un peu.
Un petit peu? En tant qu'étudiant, oui. Vous payez un petit peu d'impôts?
Oui, mais je travaille aussi. Oui. Je pense que c'est 18%.
Quand même. Osborne Overoth, vous vouliez rajouter quelque chose?
Non, d'abord, on dit en Norvège facilement qu'on paye les impôts avec joie. Et je crois qu'en général, quand on sent que ces impôts servent à quelque chose, qui vont à la communauté, c'est en général positif pour les Norvégiens. Mais je voulais juste dire pour ces migrés, parce que je pense que oui, il y a peut-être moins de problèmes que dans d'autres pays, mais beaucoup d'émigrés font aujourd'hui des travaux en Norvège que les Norvégiens ne veulent plus faire. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de jeunes émigrés, les petits-enfants des Pakistanais et Pakistanaises qui sont arrivés, qui sont étudiants en médecine, etc. Et d'un autre côté, c'est les jeunes garçons souvent. Et ça rejoint un peu les jeunes garçons norvégiens, ont plus de problèmes par rapport aux études, etc., que les filles norvégiennes. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça aussi avec les immigrés. Beaucoup des filles d'immigrés font de très très bonnes études.
Tove Gravdal, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, on aime dire en Scandinavie que nous avons des sociétés de confiance. Et c'est-à-dire que moi, en tant qu'employée, j'ai confiance aux politiciens et les autorités d'organiser la société dans une manière qui est bien pour moi. Et ça, c'est une grande différence avec beaucoup de pays du monde. En Afrique, par exemple, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui disent que non, mais je n'ai pas confiance aux politiciens, c'est-à-dire que je ne veux pas payer des taxes ou des impôts. Et ici, c'est un peu différent. Mais je crois que il ne faut pas rosser l'image de la Norvège parce que, pour le moment, le grand débat ici en Norvège, c'est sur le péage dans les routes autour des villes. Et les gens disent qu'on ne veut pas payer pour financer des...
Alors faut expliquer un petit peu, parce que c'est pas forcément compréhensible pour tous nos auditeurs. Non. Quand on veut arriver avec sa voiture dans une ville norvégienne, que, évidemment Oslo, mais Bergen, Trondheim, probablement Stavanger aussi, il faut payer. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de payer les autoroutes pour aller d'un point à un autre. Là, en Norvège, il faut, dans la plupart des villes, payer pour entrer dans la ville avec une voiture. Et donc ça évidemment, ça fait râler un peu les Norvégiens. Franck Orban.
Je vais préciser, parce que le scandale, il n'est pas là. Le scandale, il est que non seulement vous payez pour entrer en ville, ce qui est pas récent, hein, ça fait des années que ça existe, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on a découpé en rondelles les quartiers de la ville et vous payez maintenant à l'intérieur de la ville, suivant les quartiers où vous allez. Pourquoi ? Parce qu'on a, je vois la philosophie derrière est intéressante, c'est de faire la conversion verte, de rejeter les voitures en dehors de la ville, si vous voulez, et d'essayer de miser sur les transports en commun. Le problème, c'est que, et ça c'est assez, les Norvégiens n'ont pas oublié d'être capitalistes, hein. C'est-à-dire que, effectivement, vous payez beaucoup plus cher pour avoir votre voiture et pour pouvoir l'utiliser, mais en plus de ça, les tarifs des transports en commun, ils n'ont pas baissé et ils augmentent. Et de là, si vous voulez, vient l'irritation des Norvégiens qui commencent à penser que ça fait quand même beaucoup maintenant.
Et aussi, il y a des familles, n'est-ce pas, qui disent qu'on a besoin de la voiture pour transporter des enfants à l'école et tout ça. Et c'est pas juste de payer pour les gens qui prennent le bus.
Alors évidemment, lorsqu'on fait cette émission dans une radio française, ça fait un peu penser en France aux fameux gilets jaunes qui évidemment ont de grandes revendications à l'égard de l'autorisation, de la possibilité d'utiliser sa voiture. Cela dit, j'imagine que pour un Norvégien, les gilets jaunes, c'est assez incompréhensible. Je me reste autour de la table.
Mais moi, je pense que les gilets jaunes et ce mouvement pour ce paiement a quelque chose en commun au début. Parce que quand on voulait faire monter le prix du gasoil en France, on discute surtout les personnes qui n'ont pas les moyens de payer cette augmentation. Et je pense que Edouard Louis a parlé de ça récemment quand il dit que pour moi, que pour beaucoup de gens que je connais, ces changements sont des changements cosmétiques. Ça ne veut pas dire grand-chose économiquement, mais il y a pour certaines personnes, ça veut dire quelque chose quand ces prix augmentent et quand on et donc pour certaines familles, bien sûr, c'est plus important que pour d'autres.
Alors comme on est en Norvège, tout de même les manifestations restent, on va dire, très raisonnables. Kaya qui sourit, Ali qui a entendu parler des gilets jaunes en France et qui sourit à l'égard de la façon dont on manifeste en Norvège. On reste très raisonnable.
Oui, on n'a pas tout à fait beaucoup de grèves ici. Il y a un peu de manifestations, mais ils sont très calmes, tout ça. Mais on voit quand même que la liste des... Il n'y a pas tout à fait un parti politique maintenant, mais il y a une liste contre ce péage des routes qui est maintenant en tête dans les sondages à Bergen, la deuxième ville en Norvège. Donc il y a aussi un mouvement ici contre le péage des routes.
Alors ce n'est pas tout à fait le thème de l'émission, mais le paysage politique en Norvège est en train d'évoluer un peu comme un peu partout en Europe, Franck Orban.
Absolument. Si vous aviez dit il y a une dizaine d'années qu'un parti populiste arriverait au pouvoir, ça aurait surpris
le Parti du Progrès.
Ça aurait quand même étonné et choqué beaucoup de gens. Or, et c'est quand même intéressant de savoir qu'une des conséquences des attentats absolument terribles de 2011, quelques années après, c'est de voir un parti populiste arriver au pouvoir en Norvège. C'est quand même assez paradoxal, quelque part. Et ça passe un peu comme une lettre à la poste, c'est-à-dire que même dans des réunions qu'on peut avoir et tout, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont discuter le principe même d'appeler le Parti du Progrès un parti populiste. Le paysage politique norvégien s'est profondément transformé ces dernières années, et moi je constate depuis que je suis là en tout cas une polarisation de plus en plus importante avec un véritable problème pour se parler. C'est-à-dire que les partis antagonistes sont de plus en plus éloignés les uns des autres, et le niveau de confrontation, le niveau de conflictualité dans les débats monte.
On s'éloigne du consensus qui était évidemment une façon traditionnelle de régler les problèmes en Norvège.
C'est pas aussi simple, parce que je trouve qu'en Norvège, on a encore une manière à dialoguer, à parler avec l'un avec l'autre. Et nous avons une coalition de quatre partis au gouvernement. Et c'est des partis très divers et qui travaillent ensemble et qui travaillent aussi avec les partis dans l'opposition au Parlement. Et je crois aussi que parce que ce parti populiste est au gouvernement, on a réussi d'avoir une représentation de ce côté politique de la population qu'on n'a pas du tout en France, avec le Front National qui a quand même 15-20% des voix,
oui, 20,
mais qui n'est pas fortement représenté au Parlement et au gouvernement.
On va laisser les problèmes politiques de la Norvège pour quelque temps. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. On se retrouve à Oslo avec nos invités dans 3 minutes très exactement. À tout de suite.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et écrivez-nous à carrefour.europe@rfi.fr. carrefour de l'Europe sur RFI.
Spotkania europejskie.
Rozumieją tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours en Norvège, à l'Institut français d'Oslo, toujours à la découverte de la Norvège et des Norvégiens. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Tove Gravdal, elle est journaliste au Morgenbladet. Asbjørn Øvrås, il est responsable littérature aux éditions. Je ne le redis pas, c'est un nom trop compliqué. Franck Orban, il est professeur de sciences politiques à l'université d'Oslo. Ida Holund est assistante en coopération éducative. Et Kaya Wong est étudiante en littérature française. Alors, on discute de la Norvège ici, mais on est à Oslo. Et à Oslo, j'ai fait une petite balade en compagnie de Christina Aukrust et je lui ai demandé de m'emmener dans un lieu emblématique de la capitale. Et elle m'a conduit à l'opéra.
Les Norvégiens, les habitants d'Oslo sont très fiers de cet opéra. C'est vraiment une architecture qui représente la Norvège moderne, si vous voulez. On a ce marbre blanc qui représente un peu les glaciers nordiques, n'est-ce pas ? Et puis le bureau d'architecte qui a dessiné ce bâtiment, ils sont norvégiens, Snøhetta, et on est fiers de ça aussi, n'est-ce pas ? Et c'est devenu en quelque sorte le symbole d'une Norvège peut-être plus moderne. Et oui, je pense que c'est devenu à la fois une attraction touristique, c'est devenu aussi un lieu pour les gens qui s'intéressent à la culture, pas seulement l'opéra. Ça a grandi et la dimension culturelle de la capitale norvégienne.
Alors avant, le symbole d'Oslo, c'était ce grand bâtiment en briques rouges face au port qui est l'hôtel de ville.
Tout à fait. Cet hôtel de ville ressemble un peu à Brunost, c'est le fromage de chèvre marron, typiquement norvégien. Donc ça, c'est un peu l'ancienne Norvège, si vous voulez, alors que ce glacier un peu monumental ici, qui est incontestablement très beau, ça représente peut-être la nouvelle Norvège, et c'est quelque chose qui rend les Norvégiens très fiers, et qui on prend un café ici, on regarde le fjord, on visite un concert en plein air, il y a de tout, et c'est vraiment quelque chose qui est devenu très important pour la capitale.
Alors autour de la table, vous êtes d'accord, c'est devenu le symbole d'Oslo et peut-être de la Norvège, cet opéra, Kaya?
Oui, tout à fait d'Oslo, mais pas de la Norvège, parce que là on a des fjords, des glaciers, les montagnes, tout ça. Mais d'Oslo, l'opéra est vraiment un symbole très important.
Ça manquait un petit peu, parce que l'hôtel de ville, bon... Alors on a beau y décerner tous les ans le prix Nobel de la paix... C'est pas spécialement un beau bâtiment, Tove Gravdal.
Oh, moi, je trouve que l'hôtel de ville, je l'aime bien.
Alors, à Oslo, en tout cas, on se veut, à Oslo et en Norvège, on se veut écolo, on est conscient du réchauffement climatique. Oslo est, par exemple, capitale européenne verte 2019. Alors, pour ne prendre que deux exemples, un tiers des voitures neuves vendues en Norvège sont électriques. Pour la marque californienne Tesla, le marché norvégien est très, très important, j'ai l'impression. Et 95% de l'électricité provient des barrages hydrauliques. C'est ce que Kaya évoquait, il y a beaucoup de montagnes en Norvège. Alors, Oslo a l'ambition de devenir une ville sans voiture. On revient au péage qu'on a évoqué un peu dans la première partie de l'émission, à un horizon relativement proche. Mais là aussi, le pétrole vient en contradiction de ses ambitions vertes, puisque la Norvège exporte son CO2, ses gaz carboniques, qu'elle ne produit pas sur place. Et c'est un débat récurrent ici en Norvège, Franck Orban.
Bon, je peux vous donner une autre contradiction intéressante, c'est que la Norvège décerne le prix Nobel de la paix chaque année, mais s'enrichit à chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde. Parce que quand il y a une guerre dans le monde, les prix du pétrole montent, et ça c'est très bon pour l'économie norvégienne. Donc oui, on peut trouver d'autres contradictions.
Et accessoirement, pour poursuivre sur ce thème, la Norvège est un grand exportateur d'armement.
Oui, absolument, enfin, grand exportateur, elle produit, elle exporte effectivement des armes.
Alors comme il n'y a que 5 millions de Norvégiens par tête d'habitants, les Norvégiens montent sur le podium, hein. Je ne sais plus si c'est en première, en deuxième, en troisième place, mais... très rapidement après les Américains. Ces contradictions norvégiennes, comment les vit-on ? On sent bien qu'en Norvège, on a envie de très bien faire. Et en même temps, eh bien, il y a parfois la réalité qui vous rapproche. Ça fait sourire Kaya Ung.
C'est très difficile à répondre à cette question-là, parce que je pense que tous les Norvégiens savent que le pétrole, c'est pas bien pour l'environnement, mais en même temps, on dit toujours que c'est mieux que de produire le pétrole en Amérique du Nord ou en Europe où il y a beaucoup de gaz et d'autres types de pétrole. Du coup, je pense que pour les jeunes, il est important d'arrêter de produire le pétrole. Mais pour les personnes les plus âgées, je pense qu'on est toujours en train de comprendre qu'il faut s'arrêter, qu'il faut arrêter la production de pétrole.
Moi, je crois qu'il y a quand même aussi de plus en plus de gens âgés, excusez-moi, qui pensent qu'il faut faire autre chose. Ouais. Et que la Norvège... Et on est aussi nombreux à se demander un peu ce qu'on fait de cet argent. Parce que, je ne sais pas moi, je ne suis pas un spécialiste, mais on se dit qu'on a assez d'argent pour faire plus de recherches, pour faire un travail important pour l'après-pétrole, déjà. Si c'est pour demain ou dans 10 ans, mais qu'il faut créer de nouvelles choses, parce que la Norvège ne pourra pas de toute façon vivre de pétrole très longtemps.
Oui, le pétrole, ça va durer encore, Tove Grafdal, à peu près une vingtaine d'années maximum.
Oui, c'est ça qu'on dit. Il y a beaucoup de contradictions en Norvège. Il y a entre le réel politique et l'idéalisme. Et dans le langage politique, on peut dire que les politiciens, ils préfèrent l'idéalisme. Quand on a envoyé des soldats en Afghanistan, par exemple, on a pendant des années dit qu'ils sont là pour défendre les droits de l'homme et l'éducation des jeunes femmes ou des jeunes filles. Et on n'a pas admis les premières années que les soldats, ils ont fait de la guerre en Afghanistan. On a tué des gens. On a bombardé des civils. Et la Norvège, c'est un peu comme ça. On défend les droits de l'homme en même temps qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avoir une relation proche avec la Chine. Et on n'ose pas pour le moment de fortement critiquer la Chine pour les abus de droits de l'homme. Et c'est vrai, et pour un petit pays, bien sûr, c'est le cas pour beaucoup de pays dans le monde, mais comme ici, on défend très ouvertement et les droits de l'homme et les droits des femmes, on tombe facilement dans le réel politique. C'est brutal.
Franck Orban, vous qui avez un regard un peu français, même si vous êtes devenu très très norvégien de cœur et d'âme, ce regard sur les contradictions norvégiennes, on sent que c'est un pays qui veut bien faire. On sent que les Norvégiens, ils ont envie d'être gentils un peu avec le monde. Ça viendrait à l'idée d'aucun homme politique norvégien de dire « Make Norwegian great again ». Ça viendrait, voilà, ça lui viendrait pas à l'idée de n'importe quel homme politique en Norvège. Comment vit-on ces contradictions permanentes? Sachant qu'évidemment, la Norvège n'est pas le seul pays à avoir des contradictions.
Disons que quand vous êtes un petit pays qui est placé géographiquement à côté d'une grande puissance qui est la Russie, et que vous êtes dépendant militairement d'un allié qui est l'allié américain à travers l'OTAN, vous êtes obligé de développer une diplomatie intelligente. Et donc la diplomatie norvégienne, elle s'est faite sur la diplomatie de la paix. Donc vous avez ce fameux prix Nobel de la paix qui est décerné chaque année, et puis vous avez aussi l'implication de la Norvège dans les différents processus de paix dans le monde, avec des résultats qui sont quelquefois assez impressionnants, je dois dire. Hein. Et le fait que la Norvège...
Alors on a tous en mémoire les accords d'Oslo, 92-93.
Ça c'était moins réussi.
Mais c'est pas la faute des Norvégiens. Entre Israël et la Palestine.
Mais le fait d'être un petit pays, ça vous ouvre avec une tradition de paix et une vision positive de la part des grandes puissances, fait que quelquefois on vous utilise parce que vous êtes considéré comme un partenaire fiable et pas forcément prenant parti pour une puissance ou pour une autre. Donc je dirais que le pays a développé une diplomatie intelligente, mais effectivement, comme vous l'avez souligné, quelquefois elle est en contradiction avec elle-même, c'est-à-dire que quand vous êtes une puissance pacifique et qu'en même temps vous apercevez que le bombardement, la participation des Norvégiens au bombardement en Libye n'a même pas été discutée au Parlement norvégien et n'a même pas fait l'objet d'un vote au Parlement norvégien, vous vous trouvez devant une contradiction absolument manifeste.
Vous voulez réagir
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense qu'on a le droit de se demander si les Norvégiens, dans toute leur richesse, n'ont pas aussi un côté égoïste, et qu'on vit tellement bien, et que quand on vit bien, on veut bien continuer à bien vivre. Mais d'un autre côté, je vois bien qu'il y a une diplomatie qui, des fois, réussit très bien.
C'est encore le réel politique. On a participé au bombardement en Libye pour être un bon allié à l'OTAN. Et on dépend de l'OTAN pour notre défense. Et comme on est le voisin de la Russie, Il faut être dans le noyau de l'OTAN pour avoir une défense viable.
Alors, on pourrait se poser un peu la question si les errements de Donald Trump changent un peu la position, le regard que les Norvégiens ont à l'égard des États-Unis. Il y a un changement, on se dit finalement, cet allié si important pour nous, il n'est pas si sûr que ça.
Oui, absolument, il fait de la peur. Ici en Norvège, parce qu'il il menace cette alliance en l'OTAN, qui est
la base de la défense
norvégienne. Et c'est on se sent un peu menacé.
Alors, on a évoqué quelques ambiguïtés diplomatiques et de politique étrangère de la Norvège. Il faut évidemment parler de l'ambiguïté norvégienne à l'égard de l'Europe. À deux reprises, en 1972 et 1994, la Norvège... Les Norvégiens ont refusé d'adhérer à l'Union européenne, ce qui ne les empêche pas d'être très très liés à l'Union européenne à travers un accord sur l'espace économique européen, une contribution, hein, tous les ans. Les Norvégiens font un chèque d'environ 400 millions au budget de l'Union européenne. Et les Norvégiens, en échange de cet accès à l'espace économique européen, sont obligés d'appliquer bon nombre de règles européennes, sans pouvoir ni les choisir ni les modifier, à l'exception de deux domaines qui sont et l'agriculture et la pêche. Pourquoi les Norvégiens, finalement, n'ont jamais adhéré à l'Union européenne ? Comme un moment de silence autour de cette table.
Là, je pense qu'on nous fait entrer par la porte de derrière, d'une certaine façon. Moi, j'ai l'impression que la Norvège est un des pays les mieux adaptés à l'Union européenne, que si on avait un référendum qui disait qu'on devait rentrer, on n'aurait pas grand-chose à changer. C'est mon impression.
Il faudrait une demi-heure, pratiquement.
Mais c'est intéressant, moi, je trouve déjà d'être au carrefour de l'Europe et d'être norvégien aujourd'hui. Parce que moi, je me sens très européen, même en n'étant pas membre de l'Union européenne. Je me sens européen et ça fait partie de toute une culture. Donc il y a quand même des niveaux différents. Et nous sommes intégrés à beaucoup de niveaux, comme vous l'avez dit vous-même.
Franck Orban.
D'abord, c'est une très bonne question que vous posez et je propose que vous la posiez à Charles de Gaulle.
Et à son âme.
Absolument. Pour la bonne et simple raison qu'en 63 et 67, la Norvège faisait partie du wagon qui devait rentrer dans la communauté européenne. Donc le nom de De Gaulle aux Britanniques en 63-67 a embarqué avec lui les Norvégiens qui à l'époque étaient favorables à l'entrée dans la communauté européenne.
Alors je vous retourne la question, maintenant que les Britanniques vont partir de l'Union européenne, est-ce que n'est pas temps, et sachant qu'évidemment les Britanniques sont des alliés historiques de la Norvège, est-ce qu'il n'est pas temps pour les Norvégiens d'adhérer à l'Union européenne?
Mais il y a une grande majorité de Norvégiens aujourd'hui qui sont pour cette coopération économique européenne, mais d'un autre côté, il y a encore une grande majorité de Norvégiennes qui ne veulent pas adhérer aujourd'hui. C'est 63-23 ou quelque chose comme ça.
Ah oui, c'est évidemment assez considérable.
C'est beaucoup plus fort que sous les référendums.
Kaya Hong, vous qui êtes toute jeune étudiante et qui par définition voyagez beaucoup en Europe, comment voyez-vous ce que l'on peut percevoir comme une ambiguïté norvégienne à l'égard de l'Europe?
Je pense que les Norvégiens se sentent pas tout à fait européens, mais plutôt scandinaves. Et on se sent un peu différent de le reste du continent parce que c'est à cause de l'agriculture et à cause de la pêche, mais aussi, je sais pas si c'est à cause du pétrole, mais pour moi, l'Europe, c'est pas nous. On fait pas vraiment partie de l'Europe.
Ida Holung, comment réagissez-vous à ce que vient de dire Kaya Hong?
Moi, je pense qu'il y a une grande partie de la Norvège qui pense la même chose. Et ça dépend vraiment de ce que je vois. Moi, je travaille avec les étudiants qui, eux, font des études en France et ailleurs en Europe. Je pense qu'eux, ils se sentent beaucoup plus européens que les personnes qui n'ont pas étudié ailleurs, quoi. Je pense qu'il s'agit juste de ça.
Alors, Franck-Aubin, pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Kaya Hong, on se sent plus proche des Scandinaves, mais il y a des Scandinaves, ils s'appellent les Suédois, qui sont membres de l'Union européenne, et il y a des Nordiques qui s'appellent des Finlandais, qui sont membres de l'Union européenne. Donc on peut retourner l'argument de Kaya Hong. Comment réagissez-vous?
Juste pour préciser une chose, si on fait la différence entre l'opposition à l'Europe dans les années 80 et l'opposition aujourd'hui, je dirais que dans les années 80, la Norvège ne voulait pas rejoindre un club de riches. Parce que l'Europe était considérée comme un projet élitiste. Effectivement, dans la tradition norvégienne, il y a toujours cette ambivalence entre la capitale et la périphérie, le centre et la périphérie. Et donc, il y avait la vision que cette fédération européenne représentait un modèle de société qui n'était pas le modèle norvégien. Dans les années qui ont suivi, c'est-à-dire après l'élargissement de 2004 et 2007 européen, la vision s'est retournée. Et maintenant, ce serait plutôt qu'on n'a pas envie de rejoindre un club de pauvres. C'est-à-dire que on risquerait de payer trop, en fin de compte, pour ce qu'on pourrait en retirer comme avantage. Le choix des Suédois, des Finlandais, c'est un choix qui date quand même de 95, donc c'est, ça date. Et puis c'était pour des raisons aussi largement stratégiques. Je vous rappelle que la Norvège est membre de l'OTAN, chose qui n'était pas, c'était pas le cas pour la Finlande et la Suède. Donc la Suède et la Finlande voulaient des garanties de sécurité qu'elles voulaient obtenir à travers l'adhésion à l'Union européenne, alors que pour les Norvégiens, il y a quand même l'OTAN qui est derrière et qui permettait d'avoir cette garantie.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Oslo, à l'Institut français, à la découverte de la Norvège et des Norvégiens. Je vous rappelle le nom de nos invités. Tove Gravdal, elle est journaliste au Morgenbladet. Asbjørn Overås est responsable littérature chez un éditeur. Franck Orban est professeur de sciences politiques. Ida Holung est assistante en coopération éducative. Et Kaya Ong est étudiante en littérature française. On s'est baladé tout à l'heure avec Christina Okrust et on va reprendre un petit peu le chemin de balade. On s'est baladé un peu plus loin du centre d'Oslo, dans un autre endroit très emblématique. Où sommes-nous, Christiane ?
Nous sommes à Holmenkollen, c'est un tremplin de ski et également le musée du ski qui est intégré dans la construction du tremplin, dans la montagne juste derrière. Et c'est l'attraction touristique numéro 1 de la Norvège. Et je pense que le record, c'est 127 mètres de longueur. Et il faut quand même être assez courageux pour faire ce saut.
Oui, parce qu'on s'élance d'un endroit qui est très très élevé.
Qui est très élevé, c'est ça. Donc c'est pour des professionnels et pas pour des amateurs. Et chaque année, il y a des compétitions internationales. Et on a même un jour qu'on appelle le jour de Holmenkollen, où tous les habitants d'Oslo montent jusqu'à Holmenkollen. Et on amène nos enfants et on fait la fête. Et on soutient les sauteurs norvégiens, qui sont très doués, bien sûr.
Évidemment, les meilleurs du monde.
C'est ça. Malheureusement, pas chaque année. Il y a aussi les Allemands, les Finlandais, aussi d'autres nationalités.
Et les sauteurs norvégiens, ce sont des héros nationaux.
C'est ça. Et aussi les skieurs de fond et les skieurs, les alpinistes. Tout à fait. Et dans le musée du ski, on peut voir leurs médailles qui ont été données au musée du ski et qui sont considérées vraiment comme de très bons représentants de la Norvège.
Alors, on dit toujours que les Norvégiens sont nés avec des skis aux pieds. C'est vrai ?
C'est vrai, tout à fait. Ça fait partie de notre héritage, de notre culture, de notre identité. Et si on n'aime pas faire du ski, ben on se sent en quelque sorte un peu en dehors de cette communauté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très valorisé de faire du ski. Tous les enfants doivent maîtriser ce sport parce que ça fait vraiment partie de notre identité culturelle.
Autour de la table, tout le monde fait du ski, évidemment l'hiver, hein.
Ah. Ouais, je fais un peu, mais je tombe beaucoup.
Ah, c'est rassurant, ça me fait plaisir d'entendre ça.
Beaucoup.
Gaïa fait du ski, Franck, comment fait du ski ?
Nautique.
Ah, l'été, alors plutôt l'été. Voilà. Osborne, non ?
Moi, j'ai fait beaucoup de ski jusqu'à 9 ans, et alors je suis allé vivre en France pour un moment, et en revenant, je n'ai plus jamais fait de ski.
Ah, et vous, Tove,
comme ça ? Oui, j'aime bien faire le ski.
Alors, il paraît que le ski, c'est un mot norvégien, il paraît. Tout le monde confirme autour de la table. Alors, donc, c'est confirmé quand même, c'est difficile d'être un vrai norvégien sans être skieur.
Le fait de connaître le ski de fond, c'est une manière à mesurer le niveau d'intégration parmi les immigrés en Norvège. On voit de temps en temps à la télé des femmes voilées qui font des cours de ski. Et c'est vraiment, c'est très important et c'est une manière de s'intégrer dans la culture norvégienne.
Mais c'est vrai que je ne me sens pas comme un bon Norvégien quand je ne fais pas le ski. Non, mais sérieusement, tout le monde autour de moi fait du ski. La plupart des Norvégiens aiment ou alors disent qu'ils aiment faire du ski.
Et il y a même des Pakistanais qui font du ski qui sont de meilleurs Norvégiens que vous, certainement.
Mais
probablement.
J'en doute pas.
Alors, il paraît qu'en ski, quand il y a des compétitions, le plus important, c'est de battre les Suédois.
Oui.
Alors là, tout le monde est d'accord autour de cette table. Alors, peut-être aussi que le ski, c'est une façon aussi pour les Norvégiens, une façon, il y en a sûrement d'autres, d'appréhender la nature. Je crois que c'est un mot qu'on emploie ici, la Norvégie attitude. La nature, c'est une partie de la Norvégienne attitude, comme on dit en français, ou pas ?
Je crois que historiquement, on est presque encore des paysans. Ça veut dire la Norvège, parce qu'on a été sous la Suède et le Danemark pendant presque 400 ans, ne s'est pas développée très tôt. On a eu de petites villes, une grande majorité des Norvégiens habitaient à la campagne. Et génétiquement, on reste quand même des paysans.
Alors sur cette norvégienne attitude, sur cet état d'esprit norvégien, on m'a dit, en Norvège, si on n'est pas content, on le garde pour soi. Hein, ou d'une manière générale, c'est pas très bien de se plaindre. Kaya Holm, c'est vrai que c'est pas très bien de se plaindre, on se plaint pas en Norvège?
Ouais, tout à fait. On,
Ida Holung.
Oui, on se plaint pas. Oui.
Mais on n'a peut-être pas d'énormes raisons de se plaindre. Pour la grande majorité des Norvégiens, nous vivons assez bien aujourd'hui.
Oui.
Mais ça ne veut pas dire, de nouveau, historiquement, on a quand même eu des combats pour obtenir quelque chose. Il y a une histoire social-démocrate, il y a toute cette histoire derrière nous qui fait qu'on est là où on est aujourd'hui, avec le pétrole en bonus, en plus. Mais oui, on n'a pas énormément de raisons de se plaindre.
Mais c'est vrai que vous n'avez pas de raisons de vous plaindre, puisque vous êtes les plus heureux du monde.
Ça, c'est... Moi, j'ose pas dire à la radio française que je suis pas heureux.
Alors justement, qu'est-ce qui manque pour que les Norvégiens soient encore plus heureux? Est-ce qu'il manque quelque chose à la Norvège?
Là, il pleut un peu trop, là.
Bon, alors on laisse de côté la météo, effectivement, il pleut un peu trop. Qu'est-ce qui manque à ce pays si parfait, où le peuple est si heureux?
Un peu plus de train, à mon avis, mais c'est un peu personnel.
Un peu plus de train, un peu plus de transport en commun, bon, c'est pas grand-chose. Franck Orban, vous, qu'est-ce qui manque aux Norvégiens, là,
Norvège? J'achète pas l'image d'Épinal du Norvège heureuse. Moi, je vois des tensions monter dans la société, je vois des sous-classes apparaître dans le pays. On parlait de l'immigration, justement. Il faut arrêter de montrer cette image de l'immigration heureuse en Norvège, parce que ça concerne peut-être la première vague d'immigration dans les années 70 avec les fameux Pakistanais. Ça concerne pas du tout les nouvelles vagues d'immigration qui sont arrivées plus tard. Une chose que je voulais dire aussi au niveau de protester, moi ce qui me choque en tant que Français de tradition catholique, pas de religion, mais de tradition catholique, c'est que nous on adore le conflit. J'ai une collègue allemande qui vient de la région de Munich, et quand on est à table avec nos collègues norvégiens, on s'étripe comme des fous, mais on s'adore. Mais dès qu'il y a un conflit, on peut pas avoir de conflit ouvert, c'est pas permis. Donc ce que je vois, moi, c'est que les gens peuvent passer des années à travailler ensemble, à se détester fondamentalement, mais ils vont jamais rien se dire. Ça ne va jamais, le conflit ne va jamais exploser, alors que chez nous, c'est beaucoup plus brutal, mais on a tendance à pouvoir résoudre les conflits peut-être plus facilement, parce que ça éclate justement. Ça n'éclate pas ici.
Kaya Holm, qu'est-ce qui manque à la Norvège, aux Norvégiens?
Je pense que les riches sont en train de devenir plus riches et les pauvres sont en train de devenir plus pauvres. Du coup, cette égalité qui est très importante pour la Norvège est en train de disparaître. Du coup, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en ce qui concerne l'égalité. Et aussi l'égalité homme-femme, bien sûr, parce qu'il y a, bien sûr, beaucoup d'égalité entre les hommes et les femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes dans les cadres de grandes entreprises sont toujours plutôt des hommes. Et des hommes gagnent.
Il y a encore une marge de progression. Asbjørn Hovraas.
Non, déjà, je suis très d'accord. Je pense que cette idée de la Norvège heureuse, je trouve ça problématique aussi. D'abord, il y a pas mal de gens qui ont des problèmes. D'un autre côté, les choses ne vont pas dans le bon sens, à mon avis, non plus. Et beaucoup de choses qui ont été acquises en Norvège pendant de très longs combats, pendant 70 ans peut-être plus, sont aussi en train de se perdre. Ça veut dire qu'on a de plus en plus d'écoles privées, de plus en plus d'hôpitaux privés, je veux dire, ça donne aussi de grandes différences pour la population. Ça veut dire que les gens ont des assurances maladies privées, et ça, c'est un développement énorme par rapport à ce qu'on avait par exemple dans les années 70.
David Ravdal, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Qu'est-ce qui manque à la Norvège et aux Norvégiens?
Peut-être une absence de conscience de l'histoire. On le voit ici à Oslo maintenant, parce que Oslo, c'est une ville en pleine construction. On construit un musée national, la bibliothèque publique, l'opéra et le musée Munch. Mais on ne sait pas de quoi faire avec le musée qui était construit il y a 150 ans pour des œuvres d'art. Le ministère des Affaires étrangères, qui est un bâtiment majestueux et historique. Mais maintenant, on va déménager le ministère et on ne sait de quoi faire avec ce bâtiment. On ne pourrait pas imaginer la même chose à Paris, de vider Quai d'Orsay pour déménager dans une construction moderne. Et maintenant, on est en pleine discussion sur les bateaux des Vikings, par exemple, qui sont en train de se déliter. Et dans ce pays riche, on n'a pas d'argent pour garder cette richesse culturelle et historique. C'est étonnant quand même.
Et oui, c'est qu'on l'a même pas dit, vous êtes tous autour de cette table des descendants des Vikings, devenus très très riches, et maintenant vous prenez plus le bateau, vous prenez l'avion pour aller dans les pays du Sud où il y a plus de soleil, comme aimerait qu'il y en ait un peu plus, Ida Holong, autour de cette table. Merci à tous les cinq d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Nicolas Benita. Merci aux équipes de l'Institut français d'Oslo et à l'ambassade de Norvège en France. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour réécouter ce Carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé, le site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter. Attention, à partir de la semaine prochaine, pour cause de Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, Carrefour de l'Europe sera occulté en Afrique et sur la FM Paris. Daniel Desescal, où que vous soyez, à Oslo, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous dis à très bientôt et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Du lokai en ørsin til Stevanak, da det ble mye og du tok det som et tjag. Og sola går sin gang. Du måtte fordøye alt du ikke kunne se. Jeg måtte føye meg så du skulle komme ned. Og morgen går sin. Ser du vill tillbaka till där vi var himmelblå. Men du har ingenting du skulle sagt och inget fler du kan skylla på. Och jag vet att du vill ha någon där som du kan stole på. Men du sa fra deg hele dagen, du bestemte deg for at du skulle gå. Du får ikke alt du peker på.